Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille.
Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « Les dévoreuses ». Et oui, chères auditrices, c'est bel et bien une émission sur celles qui font à manger et celles qui aiment manger. On a décidé de s'intéresser à ce thème car se nourrir est un moyen de construire son identité et c'est à la fois un acte individuel mais aussi collectif. En effet, ce qu'on mange, ça donne des indices sur la zone géographique, sur l'âge, la catégorie sociale, mais surtout sur le genre. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, ce soir. En fait, on se nourrit d'aliments mais aussi d'imaginaire, c'est ce qu'on appelle la pensée magique. C'est-à-dire qu'en absorbant certains aliments, j'en acquiers les propriétés et les vertus. On l'avait beaucoup vu quand on avait travaillé sur les nourritures dites aphrodisiaques, par exemple. Mais en fait, il y a aussi une dimension politique et culturelle de la cuisine. Donc c'est pour ça que ce soir, le genre passe à table, parce que manger et faire à manger, c'est aussi un mode de gouvernance. Alors pour se mettre en bouche, je vous propose une petite liste d'expressions qui désignent les femmes qui aiment manger.
Affamée, avide,
amatrice,
baffreuse,
bec fin,
bec sucré,
bouche fine,
briffaude,
béquillarde,
bouffeuse,
boustifailleuse,
coteau,
dégustatrice,
dévoreuse,
épicurienne,
fine gueule,
cordon bleu,
friponne,
friande,
gloutonne,
goinfre,
goulue,
gourmette,
gourmande,
gueularde,
gourgandine,
gastrolade,
gastronome,
lécheuse,
lèche-frite,
mangeuse,
mordue,
morphale,
ogresse,
pifre,
ripailleuse,
sibarite,
vorace,
va de la gueule.
Tu nous as mis en appétit, Camille, avec ta petite liste de mots. Oui, on va revenir peut-être sur l'expression « groumette », qui date de 1330 et qui désigne à la base une courtière en vin ou plus généralement une domestique chargée des vivres et des vins. Donc c'est plutôt un métier que cela désigne plutôt qu'une qualité en fait. Mais à partir de 1458, groumé remplace et devient l'homme qui déguste le vin et qui sait l'apprécier. Il le vend pas, il sait l'apprécier en fait. Et puis à partir de 1757, l'adjectif désigne celui qui apprécie la bonne chère et qui sait disserter à son sujet. Et hop, d'un adjectif qualificatif féminin, on passe à un adjectif qualificatif masculin. Et c'est un petit peu finalement tout ce qu'on va raconter ce soir, c'est-à-dire ce glissement de quelque chose, la cuisine qui est rattachée à un univers féminin, comment ça va être occupé très rapidement par les hommes et comment les femmes vont en être exclues.
Donc tu nous as préparé une émission en deux parties. Justement, on va revenir sur cette histoire marquée d'interdits. On verra dans un second temps comment l'alimentation est sexuée. Donc commençons justement par ces interdits. Les femmes sont plutôt oubliées de l'histoire de l'alimentation. Est-ce que tu veux nous faire un petit rappel ? On peut, je pense, commencer... On ne va pas remonter très loin à la sédentarisation de l'humanité.
C'est déjà pas mal. Alors c'est vrai qu'avec la sédentarisation, on assiste à une division sexuelle du travail et de l'espace. Hein. Donc aux femmes revient l'intérieur, donc l'espace domestique, donc la cuisine. Et ça, on le voit notamment à l'Antiquité, où en Grèce, jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, hein, ce sont les femmes qui préparent les repas quotidiens. Mais comme elles ne sont pas citoyennes, elles sont exclues de ces banquets publics. C'est-à-dire qu'elles préparent, mais elles ne peuvent pas y manger. Et seules, et ça c'est important, ça nous servira pour plus tard, seules les courtisanes peuvent être présentes à ces symposiums. Alors le symposium, c'est un peu l'after du repas. Voilà. Cette exclusion va se poursuivre avec Périclès, où là, chez les élites, la cuisine devient une affaire d'hommes. On parle de gastrologie ou de gastrosophie. Hein, et se met en place un peu une sorte de prêtre cuisinier. C'est ce qu'on va retrouver aussi à Rome, hein, où la cuisine est faite par les non-citoyens. Et la cuisine des élites est réservée, et c'est le domaine du cuisinier. un homme. Et de nombreuses sources iconographiques vont nous montrer principalement des hommes dans les métiers alimentaires, comme cuisiniers, boulangers, bouchers. Mais on va avoir des femmes, elles, plutôt dans les métiers de bouche et de vente, en fait, plutôt en lien avec l'agriculture. C'est-à-dire qu'on va les voir en train de vendre des fruits ou des légumes au marché.
Si on remonte ici au Moyen-Âge, on voit dans l'iconographie que les banquets sont mixtes, on voit des hommes et des femmes.
Oui. Plutôt au Moyen-Âge, les banquets redeviennent mixtes, sauf certains banquets à caractère politique où les hommes et les femmes vont faire table séparée, où parfois les femmes sont reléguées en bout de table avec les invités de moindre valeur sociale.
Avec les enfants.
Voilà. Et donc dans ces milieux populaires, dans la vie quotidienne des milieux populaires, c'est les femmes qui font elles-mêmes la cuisine, mais dès que les familles ont une petite aisance, hop, on va employer des serviteurs, hommes et femmes, qui travaillent en cuisine. Et l'alimentation des élites est là aussi réservée aux hommes. D'ailleurs, on trouve principalement ces métiers au masculin. Viandier, maître-queue, saucier. Alors, pâtissier, c'est faire des petits pâtés sucrés ou salés. Oyer, poulailler, en gros, c'est rôtisseur. Et eux, ils s'organisent comme corporation, donc vraiment quelque chose de très communautaire et très clos.
Fraternité après.
Ouais. D'ailleurs, on a très peu de... Enfin, on pourrait même dire, on n'a pas de nom de femmes cuisinières de l'époque médiévale qui sera arrivée jusqu'à nous. Alors qu'on connaît des noms de cuisiniers célèbres, voire d'auteurs de livres de cuisine au XIVe, au XVIe siècle, comme Taillevent, on a aussi le livre Le Ménager de Paris... Oui. Mais on sait qu'il y a des femmes dans ces espaces-là, notamment dans tout ce qui est là où on vend du vin, en fait.
C'est ça qui donne, qui surveille les mesures, justement. Oui. C'est hyper important. Autre aspect pour faire connaître la cuisine, c'est le livre. Le livre de cuisine, quand apparaissent les premiers livres qui sont faits par des femmes?
Il faut attendre le 18e, donc c'est assez tardif. Je pense qu'il y a d'autres... Il y avait quand même des quelques sources, mais on les a perdues ou elles n'ont pas été transmises. Et pour la France, c'est notamment en 1746 qu'on a le premier livre de cuisine écrit par une femme, et ça s'appelle « La cuisinière bourgeoise ». Là aussi, on va retrouver... ces femmes ont parlé de tavernes, etc. Donc souvent, elles sont appelées hôtelières, cabaretières, tavernières, limonadières. Elles sont aussi présentes dans les cantines pour les armées. Elles peuvent parfois diriger certaines auberges. Et là, on va commencer à parler de Lyon, puisque c'est la première mère lyonnaise, c'est la mère Guy, qui ouvre son restaurant La Mulatière en 1759. Un resto qui va être ouvert pendant pratiquement 235 ans.
Et quand tu cites Lyon, c'est un peu la capitale de la gastronomie en France.
Oui, à cette époque-là et jusqu'au XXe siècle. Mais voilà, il y a cette histoire qui est invisibilisée, notamment parce qu'il nous manque des écrits. On n'a pas assez travaillé les sources pour retrouver ces femmes-là. Parce que c'est aussi des femmes du peuple, en fait.
Voilà, c'est lié à cette culture populaire, en fin de compte. Et sinon, tu nous as quand même retrouvé l'histoire du premier livre de cuisine écrit par une femme, c'est pas banal.
Oui, le tout premier livre de cuisine écrit par une femme, c'est un livre coréen, en fait. Et il paraît en 1670. En gros, le titre, c'est « Comprendre le goût des aliments ». Et ça, c'est assez intéressant, c'est que souvent, les premiers livres de cuisine de certains pays ou de certains États sont écrits par des femmes. Le premier livre de cuisine américain est écrit par une femme. Pareil, la recette du ketchup, en fait, c'est une femme, c'est une Anglaise qui invente ça dans un livre en 1727.
Finalement, elles sont, j'ai l'impression, les tenantes d'une cuisine plutôt pratique et populaire. Là, la cuisine élitiste va finalement être plutôt accaparée par les hommes.
C'est exactement ça. Et on le voit notamment dans la multiplication des titres de cuisine pendant les périodes de crise, que ce soit pendant la Révolution française, où là, on va avoir la cuisinière républicaine qui enseigne la manière simple d'accommoder les pommes de terre avec quelques avis sur le soin nécessaire pour les conserver.
Alors, ça c'est le titre de l'ouvrage, ce que je viens de dire.
Ouais. Voilà. Et c'est Catherine Mérigot qui sort ça. Et on a la première recette de pommes frites quand même là-dedans.
Ah, super.
Toi, tu as trouvé pendant la Commune un autre titre aussi qui montre bien les préoccupations de l'époque. La cuisinière assiégée ou l'art de vivre en temps de siège, publié en 1871.
Ah, mais j'adore le côté pratico-pratique, tu sais.
Alors ce côté pratico-pratique, et notamment pendant ces crises, on va les voir, ces femmes-là, très présentes aussi dans la vie politique. Et là, je pense aux haranguères, aux poissardes et aux marchandes de verdure. En gros, ce sont les dames des Halles de Paris, et qui sont le symbole d'un petit peuple qui est capable de déclencher les émeutes ou des révolutions. Alors ces femmes-là, elles sont très puissantes puisqu'elles ont leur propre argot. Donc elles ont leur propre langage, ça veut dire des choses, ça aussi. Elles sont connues pour leur verve, parce qu'il y a même un décret en 1756 qui leur interdit d'insulter leurs concitoyens. Je trouve ça juste fantastique. Elles ont des privilèges corporatifs. Et puis surtout, elles inventent une notion de citoyenneté basée sur un travail utile. C'est-à-dire qu'elles nourrissent Paris et elles sont patriotes. Et donc elles vont avoir une certaine légitimité publique et le privilège de l'expression politique. Donc on voit bien qu'elles étaient présentes, en fait, toutes ces femmes-là dans ces milieux-là, mais qu'après, en fait, comme tu le disais, dès qu'on va mettre en place une cuisine un peu plus élitiste, dès qu'on va commencer à organiser ce milieu-là, hop, elles vont passer à la trappe. Alors juste pour terminer sur ces poissardes, il y en a une qui est restée dans l'histoire, c'est Louise Reine Audu, dite la Reine des Halles. Alors elle est fruitière à Paris. Et c'est surtout elle qui va participer à la marche de 1789 du 5 octobre, cette marche de femmes qui ramène le roi à l'intérieur des murs de Paris. Et elle, pendant en 1795, elle aura un poste où elle va gérer les subsistances.
Ouais, ça.
Pendant la Révolution, ça veut dire
gérer les stocks, c'est important. C'est ça. T'as la main sur les stocks. Ouais. Faut pas lui déplaire. Tout à l'heure, tu parlais des cantinières. Tu peux nous en dire un mot?
Oui, alors ces cantinières ou vivandières, ce sont ces femmes qui suivent les armées. Elles ont des postes de domestiques, donc elles peuvent vendre des produits alimentaires, du tabac, des eaux de vie, du papier, des encres, blanchir le linge. En fait, elles font un petit peu tout. Elles vont avoir elles vont être très très présentes, notamment pendant les guerres de Napoléon. Puis à partir de 1913, elles disparaissent des armées.
Ah, 1913, ah, ouais, 20e siècle.
Ouais, mais elles vont être vraiment très présentes. Et c'était là aussi des femmes plutôt issues du peuple qui suivaient pour faire deux, trois petits boulots. Voilà.
Ouais, pas banal comme histoire non plus.
Dix grammes de mercure, 20 grammes de chlorate, laissez cuire le tout jusqu'à ébullition. Saupoudrez de bromure, si la pâte se gâte, ajoutez 3 pincées d'azoture de plomb. Distillez le chlorure, délayez l'ammoniac, si la nitro durcit, prolongez la cuisson. Versez la glycérine, mais surveillez la plaque, vous risquez d'entraîner une détonation. Maintenant que l'azote a mollifié la colle, il nous reste à trouver notre détonateur. Personnellement, je suis de la vieille école, privilégiant la mèche au tic-tac inducteur. Feuilletez l'aluminium, obturez l'entrée d'air, puis laissez reposer la charmante mixture. Vous obtiendrez ainsi miracle culinaire, une bombe artisanale de la meilleure facture. Les femmes à la cuisine, voilà pourquoi je suis mot à mot son exemple. Rien de mieux qu'un soufflet de nitroglycérine pour rôtir le poulet et faire sauter la bombe. Riton, c'est toi l'aîné, tu restes dans la bagnole. Si les condés arrivent, tu canardes à foison. Dédé, t'es le plus jeuneau, donc c'est toi qui t'y colle. Tu resteras à l'arrière pour charger le pognon. Le molosse est Francky, si jamais le bas blesse, je compte sur vous les gars pour faire taire le vacarme. Pendant ce temps, Roger, tu surveilleras les caisses. Si plomb pour l'employé qui fera sonner l'alarme. La main froide est ma pomme, pas le temps de faire la foire. Nous on ira fureter dans la salle des coffres. Comme on n'a pas les codes, on fera sauter la poire. Pour faire un beau braquage, faut être philosophe. 10 millions en diamants, 20 millions de francs suisses. Servez-vous les enfants, c'est maman qui régale. Ma bande de gangsters, c'est un peu comme mes fils. Je veille à partager de égal à égal. Mon père disait les femmes, ça sert qu'à faire des mioches. Voilà pourquoi je suis mot à mot son exemple. Moi mes Jody Linger, mes 6 têtes de pioche, je les ai éduquées pour faire sauter la porte.
Les Dévoreuses, une émission spéciale sur les femmes et la cuisine.
Personne ne bouge.
c'était Les femmes à la cuisine de Nawel Dombrowski et qui prouve bien que savoir faire la cuisine en temps de crise, ça peut être intéressant.
On voyait jusque-là que les femmes étaient plutôt rattachées à une cuisine populaire.
Oui, et c'est une construction. C'est une construction parce que lorsqu'on va mettre en place ce qu'on appelle la civilité gourmande, alors donc on reste toujours dans notre 18e, hein, cette civilité gourmande qui est impulsée par Grimaud de la Reynière, en gros ce sont des dîners philosophiques avec cette volonté d'anoblir le gourmand. C'est-à-dire qu'on essaie de passer d'un glouton gloinfre vorace à un gourmet, une fine gueule, un bec fin. C'est la figure de l'honnête homme dans la bourgeoisie, en fait. Il faut contrôler ses pulsions, etc. Et donc, on va vraiment former une communauté, transmettre l'art de manger, comment on se tient à table, comment on découpe la viande, on met des petits jurys de dégustateurs. En fait, c'est le début de la gastronomie. Alors, gastronomie, ça veut dire, ça vient de gaster, ventre, et nomos, loi. En gros, les lois du bien manger. C'est ça, la gastronomie. Sauf que les femmes vont être complètement exclues de ces repas-là. Elles ne seront admises que pour les goûters sucrés, les réunions champêtres et les collations avant-bal.
Oui. C'est pareil, dans un milieu très bourgeois, du coup.
Ouais.
Mais exclu, quoi.
Exclu. Et cette hostilité assumée et affichée va se poursuivre avec la multiplication des restaurants, notamment à la fin du 18e, début du 19e. En fait, il y a une sorte de volonté de distinguer la gastronomie des grands hommes de la cuisine domestique des bonnes femmes. Et c'est comme ça qu'on parle à l'époque. En fait, c'était pas un métier ni une profession, être cuisinier ou cuisinière.
Encore moins un art, comme ça l'est devenu.
Voilà, c'était une activité domestique, donc essentiellement féminine. Donc, il faut se détacher de ça. En plus, la cuisinière avait une image assez négative. Hein. Elle est perçue comme ignare, comme gourmande, pas toujours honnête, qui trafique avec l'argent du bourgeois. C'est ce qu'on appelait la hanse du panier.
Oh, vas-y, dis-le-nous.
Et ça, on va le retrouver aussi. Ça a marqué les imaginaires de l'époque. C'est aussi pour ça qu'on ne va pas introduire les femmes dans cette gastronomie. Et c'est ce qu'on retrouve chez Balzac, avec ce portrait de cuisinière pas super sympa.
La rabouilleuse. Flore n'est friturière et rôtisseuse, les deux qualités qui ne peuvent s'acquérir ni par l'observation, ni par le travail, surpassa Fanchette en peu de temps. En devenant cordon bleu, elle pensait au bonheur de Jean-Jacques, mais elle était aussi, disons-le, passablement gourmande. Hors d'état, comme les personnes sans instruction de s'occuper par la cervelle, elle déploya son énergie dans le ménage.
Alors oui, tu vas me dire, là on est dans les imaginaires, c'est de la littérature, après il y a ce qui se passe vraiment sur le terrain.
Ça donne quand même du mépris. Hein,
en fait, oui, parce que lorsque les écoles professionnelles de cuisine voient le jour en 1891 à Paris, elles sont strictement réservées aux hommes. Il va falloir attendre un siècle, c'est-à-dire en 1980, pour que les femmes soient admises. Et c'est exactement le même moment où la cuisine s'organise de façon militaire, avec une brigade, des seconds, des chefs, des chefs de parti, des commis, et tous vont porter un uniforme. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, presque de, on reprend les codes en fait de l'armée, armée masculine, pour les mettre dans la cuisine. Et on a les grands cuisiniers de l'époque, hein, les premières grosses figures de maître, comme Escoffier, Gilbert, qui sont très clairs sur le fait que les femmes n'ont strictement rien à faire dans la cuisine, dans cette cuisine gastronomique.
Voilà. Bah justement, on va voir ça avec les propos de Gilbert, célèbre chef, on va voir ses considérations.
Certains ont dit que la cuisine était l'apanage de la femme. Je l'accorde dans une certaine mesure, car comme il y a fagot et fagot, il y a cuisine et cuisine, et nous ne sommes pas à contester aux ménagères le pot-au-feu et le ragoût de mouton traditionnels. Que la majeure partie des cuisinières s'en tiennent là et ne prétendent pas s'immiscer dans nos travaux. D'abord trop fatigant pour leur complexion de femme, ensuite beaucoup trop étendue pour leurs faibles connaissances et dont elles ne peuvent rendre, quoi qu'elles fassent, qu'une très imparfaite, je dirais même, une très mauvaise imitation.
Ouais. C'est ce que tu nous disais, Camille. Hein. Là, on voit bien, il n'y va pas par quatre chemins.
Non, c'est ça. En fait, il y a fagot et fagot. Quoi. On ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. Quoi.
Ouais, on va leur laisser le ragoût de mouton. Mais...
Ouais, voilà, ouais. Et ça s'arrêtera là. Ouais. Mais après, c'est une stratégie professionnelle hein, d'exclusion parce qu'on est à un moment où cette profession a besoin d'une grande reconnaissance. Et les cuisiniers étaient plutôt des gens issus de basse extraction, formés sur le tas, qui exerçaient dans des conditions très dures une activité dite féminine. Donc, tu vois, c'est comme s'ils avaient voulu un petit peu se valoriser.
Se sert des femmes pour voilà. Valoriser, quoi.
C'est-à-dire que j'écrase ceux qui sont en dessous pour, moi, me refaire un petit peu ressortir, quoi.
Vieille stratégie anthropologique, hein, les bases.
Alors, les femmes, elles ont accès, par contre, à l'enseignement ménager, qui est aussi une forme d'enseignement moral. Mais ce n'est pas dans le but d'exercer un métier. C'est dans le but d'être une maîtresse de maison, telle qu'on attend de son rôle à cette époque-là. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'au même moment, en Europe, dans certains pays, notamment en Suisse et en Allemagne, c'est plutôt les femmes qui vont être à l'origine des formations professionnelles de cuisine.
Mais professionnelles, donc pas pour être des ménagères,
non.
Pour être cuisinière.
Pour être vraiment cuisinière.
Ouais,
hein
ouais, ouais.
Et à partir du moment où les types de cuisine commencent à être hiérarchisés, c'est-à-dire à la fin du 19e, début 20e, là on est vraiment voilà, dans cette époque un peu charnière, donc où on va distinguer... Donc, on a la haute ou la grande cuisine, ensuite tu as la cuisine bourgeoise, puis la cuisine populaire ou ménagère, et enfin la cuisine régionale ou paysanne. Les femmes vont être exclues en fait de cette haute et grande cuisine, parce qu'on estime que c'est une cuisine trop technique et trop créative pour elles.
Mmh.
De même, lorsque tu prends le mot cuisinière,
oui.
Dans ta tête, toi obligatoirement ça désigne une femme qui exerce cette profession-là.
Oui, mais je sais que c'est aussi un meuble.
Voilà. Et au 19e, ça désigne avant tout le meuble, c'est-à-dire l'installation ménagère pour faire cuire les aliments. On va plutôt utiliser l'expression « à la bonne femme » ou « à la ménagère » pour dire qu'une recette est facile.
Ouais, c'est pareil, c'est assez connoté parce que justement, on peut vanter aussi toute cette simplicité et puis beaucoup vont le faire.
Enfin, oui.
Justement, dans les milieux populaires, on entend souvent des critiques contre la cuisine gastronomique aussi, donc... C'est vraiment, là, on voit la volonté de dénigrer, quoi.
Oui, et c'est ce que tu nous as trouvé un peu dans ce c'est quoi, c'est des portraits de restaurants, en fait, par Eugène Chavette en 1867.
Ouais, je crois que c'est un guide, une compilation un peu des lieux. Ouais,
Eh bien là, on va aller voir le Ventre Libre. C'est un restaurant un peu particulier.
Une crèmerie du quartier Saint-Denis. Ne cherchez pas à y pénétrer, messieurs. La porte, vous serez impitoyablement fermée. La clientèle, exclusivement féminine, est un pêle-mêle des brocheuses, fleuristes, plumassières et cartonnières du quartier. Cet établissement est un bienfait pour les clientes, dont l'état sédentaire n'est pas sans exercer une certaine influence sur la santé. On y sert, comme partout, la côtelette et des œufs, mais le grand succès, l'idée heureuse de la maison, c'est l'immense débit de bouillon aux herbes dont se rafraîchit à pleine écuelle cette jolie population très altérée par la vie assise. Bien que toujours très nombreuse, la clientèle, par suite de la spécialité de la maison, se renouvelle par fournée, comme dans les villes d'eau. Ces demoiselles font une saison. Aussi, la mère Saint-Gros, en s'informant de ses pratiques, a-t-elle une façon de parler qui, au premier abord, paraît cruelle, mais qui n'est que logique. Que devient Louisa ? Elle va bien, maintenant. Tant pis, j'aimais à la voir. C'est la population masculine du quartier qui, furieuse de son exclusion, a baptisé la maison le Ventre Libre.
C'est pas mal déjà comme nom, le Ventre Libre.
Oui, surtout quand on comprend que c'est un resto qui est plus ou moins destiné qu'aux femmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on peut faire le petit point histoire. C'est que restaurant, le mot, vient de restaurer, c'est-à-dire ces bouillons qui permettaient d'aller mieux, en fait. Et là, on nous dit bien, elle sert un bouillon aux herbes, quoi. Donc, là aussi, on voit que sûrement les femmes qui fréquentent ce petit troquet, ce petit resto, sont aussi des femmes de milieu très populaire, quoi, et qu'il y a une sorte de solidarité entre elles qui s'est mise en place, quoi.
Ouais.
Pourtant, il existe, hein, vraiment, au 19e siècle, des cuisinières. Même on peut les classer un petit peu par catégorie. La presse culinaire les présente, hein, notamment à partir de 1882, hein, où on commence à avoir des revues culinaires, mais les présente pour mieux les mépriser, en fait. Donc tout en haut, on a le cordon bleu professorant hein, qui a fait ses classes dans les grandes cuisines privées des maisons importantes. Puis ensuite, on a la cuisinière pratiquante, c'est-à-dire celle à qui ne doit rien manquer, qui fait vraiment partie de la famille, qui souvent est issue de la campagne, et voilà, et qui est là, qui a suivi les enfants qui ont grandi, etc. Et enfin, on a la cuisinière plus modeste, en fait, celle qui se débrouille un petit peu avec ce qu'il y a en fonction du budget, en fait, de la famille. On parle bien de femmes qui cuisinent pour des bourgeois.
Hein. Oui.
Voilà. Et c'est ce qu'on va retrouver avec cet extrait de Kurnonsky. Hein. Alors, Kurnonsky, c'est Maurice Edmond Saillant, hein, qui a un critique culinaire surnommé le prince des gastronomes. Il va même découvrir certaines mères ou tantes hein, et assurer la promotion de ses premiers restos de femmes.
Je garde d'elle le souvenir d'une grande paysanne française et d'un des parfaits cordons bleus que j'ai connus. Elle n'avait point appris la cuisine dans des écoles ni des livres. Elle la savait de naissance et par atavisme, et la faisait comme sa mère, comme sa grand-mère, sa bisaïeule et sa trisaïeule, comme 20 générations de bonnes gardiennes de foyer. Elle y apportait les qualités de sa province et de sa race, la mesure, le goût, la probité, la patience et la simplicité. Cette cuisine de femme était une cuisine simple, nette, droite en goût et qui ne vise jamais à l'effet. Une cuisine paisible et mijotée, une cuisine de cordon bleu.
Et oui, on arrive à ce moment historique de l'apparition de chefs cuisinières, c'est celles qu'on appelle les mères lyonnaises, qui à l'époque étaient surnommées aussi les cuisinettes. Et ça, c'est un peu condescendant, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraiment cuisinières, quoi.
Si tu veux dire, c'est des... Elles votent, les cuisinettes. Ça fait super jetement.
C'est l'époque aussi, hein. On est dans la période de l'entre-deux-guerres. Beaucoup d'hommes sont morts pendant la Première Guerre mondiale. On a eu la crise de 1929, où beaucoup de riches ont perdu des sous, donc ils ne peuvent plus avoir tous les domestiques qu'ils avaient. Et le développement du chemin de fer. C'est intéressant, ces femmes, ces chefs-feux, elles sont à un moment de l'histoire où elles peuvent avoir leur commerce, dans des périodes où elles ne peuvent ni ouvrir de compte bancaire et où elles doivent normalement demander l'autorisation de leur mari pour travailler. Donc elles ont su s'aménager un espace de liberté assez fantastique quand même.
C'est des campagnards, tu nous le disais, bah comme souvent les domestiques façon originaire des campagnes. Après, tu as plus de précisions peut-être ?
Alors beaucoup d'Auvergne, du Beaujolais, souvent issues de familles nombreuses, donc exode rural, et elles ont toutes plus ou moins commencer comme domestique pour la bourgeoisie.
Ouais, c'est ça, alors elles vont en ville pour servir dans des maisons. Mais après, quand elles ouvrent leur restaurant, c'est quel type de resto qu'elles
alors,
ouvrent?
Alors, ça va être des relais de diligence, des petites guinguettes, des boutiques de vin, des auberges campagnardes aux portes de la ville. Et c'est une cuisine simple qui est limitée à 4-5 plats. Ouais. Alors, on n'est pas dans une carte de restaurant. Tout ça, c'est des constructions bien plus tardives, en fait, dans l'histoire de la restauration. Mais... c'est pas parce qu'elles sont au bord des villes qu'elles n'ont pas les bourgeois et les personnalités littéraires qui viennent s'encanailler, en fait.
Non, j'imagine. J'imagine bien les bonnes adresses, des fois, hein, tu sais. Ouais.
Et on va vraiment avoir une transmission des savoirs et de savoir-faire entre femmes. C'est-à-dire qu'elles vont faire des lignées comme ça de cuisinières. Hein. Alors moi, j'ai trouvé Benoîte Fayol, qui est nommée la mère Fillou, hein, donc qui était aussi surnommée la reine des poulardes. Hein, c'est sa spécialité. Qui va former Eugénie Brasier.
Très connue.
Qui aura Bocuse.
Comme apprentie. Ouais, c'est pas mal quand même.
Ouais. Mais Eugénie Bocuse. Brasier va former ensuite l'Amélie, la mère Pompon, la grande Marcelle, la mère Roucou, la tante Alice, Madame Biol, la tante Paulette. Et là, tu vois comment se met en place une certaine, finalement, transmission entre femmes. Quoi.
Avec leur nom, c'est tout un poème, je trouve.
Oui, alors il y en a une que j'aime beaucoup, moi, c'est la mère Brigousse. Parce qu'elle elle a son petit resto dans le quartier des Charpennes, à Lyon. Et c'est vraiment un quartier chaud hein, de Lyon, où il y a toutes les prostituées. Et elle, sa spécialité, c'était des quenelles en forme de téton. Voilà. Certaines ont vraiment aussi marqué l'histoire de la cuisine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle des soles meunières. Mais les soles meunières, ça vient de la belle meunière qui était le surnom de Marie Quinton, qui tenait une auberge à Roya.
Surtout, ouais, je pense qu'il est quand même important, c'est de se dire Lyon, c'est la ville de la gastronomie. Donc elles ont formé notamment les grands chefs. En fait, elles sont les mères de la gastronomie française telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Oui, et alors on a voilà, cette partie-là, Lyon et ses alentours, où on va avoir beaucoup de femmes chefs. Mais on a aussi les tantes en Bretagne. Et là, c'est drôle parce qu'on a aussi un surnom qui renvoie à la famille. Les tantes sont les femmes, généralement veuves de marins, qui tiennent des petites auberges, des débits de boissons, etc.
Les cuisinières sont dans Cosette de Boudoir avec l'émission Les Dévoreuses.
En tout cas, ces femmes, au bout d'un moment, elles vont quand même être reconnues, hein, Jenny Brasier, Marie Bourgeois ou Marguerite Bise, hein, comme de grandes chefs, puisqu'elles vont obtenir 3 étoiles à un moment.
Ça, c'est le Graal, quoi.
Et c'est ce qu'on retrouve dans ce roman, hein, de Marie Hendaye, La Chef, roman d'une cuisinière. Alors elle imagine, c'est un peu le parcours de toutes ces femmes-là. Donc elle imagine un personnage féminin issu de classe populaire qui débute comme domestique dans une maison, et puis qui, au fur et à mesure, va acquérir un savoir-faire, va ouvrir son petit resto jusqu'à devenir étoilée.
La chef préférait cuisiner selon ses propres plans, mais elle ne renâclait pas devant les souhaits timidement exprimés des clapots. Elle aimait leur faire plaisir, qu'ils s'endorment, contents, tandis que, dans sa petite chambre au-dessus de la leur, elle réfléchissait à son travail. Si excitée parfois qu'elle ressortait de son lit, descendait à la cuisine et marchait à travers la grande pièce en se représentant concrètement ce qu'elle allait exécuter le lendemain. Puis, plus vaguement, tous les jours à venir et toutes les années encore après, il lui paraissait dans un vertige presque pénible qu'elle n'aurait jamais assez de toute sa vie pour réaliser la cuisine infiniment variée, énigmatique, fertile qu'elle avait en tête. Et il existait tant de produits qu'elle ne connaissait pas encore, et sa pensée abondante concevait des images abstraites et belles de structures accomplies auxquelles elle voulait, elle sentait, que sa cuisine s'apparente. Mais elle ne comprenait pas elle-même ce que cela signifiait. Il était trop tôt dans sa vie et dans son expérience pour mettre le doigt dessus. Elle y songeait sans cesse, et il était trop tôt cependant, et elle s'agaçait d'être si jeune, si novice encore. Elle craignait sans raison qu'il ne fût éternellement trop tôt. « Ce que je voyais, me dit-elle un jour, j'avais peur de ne pas réussir à l'atteindre. »
Donc là, dans ce roman-là, ça se passe dans les années 50, après il va y avoir les 30 Glorieuses, l'arrivée de l'agroalimentaire. Ces femmes-là, elles ne vont pas être associées à cet agroalimentaire ou quoi, comme vont pouvoir l'être certains chefs. Pareil, dans la nouvelle cuisine, quand on va commencer un petit peu à alléger les plats, tout ça.
Très, très élitiste, plutôt, voilà. La nouvelle cuisine.
Ouais. Elles vont être là aussi exclues, et puis elles vont surtout être rattachées à cette cuisine lourde, rurale, etc. Pack it, box it, flip it, top it, with the bow tie, fibbing, stop it. Pies are flying through the roof. Not my first pick, but I'll do it. Make the cash right, swipe the move quick. Out the shithole with a new whip. Cream on top, I'm about to prove it. Pack it, box it, flip it, top it. Pack it, box it, flip it, top it. My boss is Mother Mary. Catch me slipping through the concrete. Show no mercy, step right on me. Stiletto death, send me to purgatory. The bakery, tryna make some more. They expect me to stay when I should go. Grab the bag for when I cross the door. It ain't for me to roll it out, it's just for me to raise the cup. Pack it, box it, flip it, top it. With the bow tie, fibbing, stop it. Eating all the rainbow cookies. Pies are flying through the roof. All the cherry, the way they all go. Knock them down like she a dodgeball. Little mess up and she's angry. One downfall, she blamed the whole team. Pack it, box it, flip it, top it. Pack it, box it, flip it, top it. The bakery, tryna make some more.
Bakery par Mélanie Martinez dans Cosette de Boudoir, une émission sur les dévoreuses. Après ce point historique, Camille, on va voir que l'alimentation est quand même sexuée et puis que la gourmandise, c'est un péché. C'est un péché, qu'il y a beaucoup de ponts avec la luxure.
Oui. On va rester dans notre 18e, là. Dans notre 18e, les premiers restaurants qui s'ouvrent, que ce soit en Angleterre ou en France, vont être interdits aux femmes. En Angleterre, parce que ce sont des gentlemen clubs. En Paris, c'est plutôt une règle un peu tacite, puisque c'est les cafés qui étaient interdits aux femmes, et comme ils vont commencer à servir aussi des plats, voilà. Or, certes, elles peuvent accompagner leur mari, mais uniquement pour le dessert, qu'elles dégustent assises dans leur voiture. Les seules femmes qui sont vraiment admises dans les restaurants, c'est les courtisanes et les demi-mondaines.
Celles qu'on paye.
Voilà, c'est celles qu'on paye. Parce qu'il y a une nécessité de transposer certaines sociabilités de l'espace privé vers l'espace public. Et donc là, on est dans les loisirs ordinaires des sociabilités masculines de l'époque. C'est-à-dire une érotisation des lieux gastronomiques. On peut même parler de prostitution gastronomique. En fait, il y a une sorte de proximité géographique entre le resto et le bordel, déjà. Ils se situent proches l'un de l'autre. Et puis, on est sur une capitalisation de l'éros de la bonne chère. Et de la bonne chère dans tous les sens du comment on peut l'écrire. Voilà. En fait, tu as du tourisme culinaire et tu as du tourisme sexuel. Au même moment. Et c'est souvent dans les mêmes lieux. Parce que tu peux réserver des petites cabines dans ces restaurants qui avaient leur propre petit escalier pour recevoir les demi-mondaines que tu souhaitais. Et c'est ce qu'on va retrouver dans ce guide des plaisirs de Paris qui date de 1908 et qui vante ainsi le restaurant-bar Tabarin au 58 rue Pigalle.
C'est là que nous avons le plaisir de rencontrer souvent des princes et même des altesses en compagnie de toutes nos beautés artistiques et mondaines. Les Otero, les Liane de Pougy, les Émilienne d'Alençon, les Jeanne d'Herval, les Irma de Montigny et Tutti Quanti. Monsieur Lajeunie, son habile propriétaire, ayant su, par son amabilité et par la tenue irréprochable de son établissement, attirer une clientèle qui, jusque-là, n'osait pas venir à Montmartre pour souper, craignant de ne pas y trouver le luxe, le confort, les plats et la cave des restaurants du boulevard. Visiteurs de Montmartre, français et étrangers, vous ne pouvez pas manquer une plus belle occasion de vous initier à la haute vie parisienne.
Alors maintenant, si même à Montmartre, il y a la même qualité de vin que sur les grands boulevards...
La gentrification, c'est pas d'aujourd'hui. Hein.
C'est exactement ça. On a aussi certains classiques de la cuisine française qui montrent cette proximité entre gastronomie et galanterie. Par exemple, on a beaucoup de plats qui portent le nom de demi-mondaine. Les pommes de terre Anna, ça fait référence à Anna d'Eslion, demi-mondaine. La coupe blanche d'Antigny, les noisettes d'agneau Coraperle. Donc tout ça fait référence à des demi-mondaines.
Même si tu dis d'une femme qu'elle est gourmande, on ne sait pas s'il est question de pâte à choux ou
oui.
De sexe.
Ouais, on ne sait pas trop. Parce qu'en plus, il y a une catégorie de prostituées qui ne fréquentent que les restaurants. Et on les appelle les soupeuses. Alors les soupeuses, elles rentrent chez elles qu'au petit jour et dorment toute la journée. Et en début de soirée, elles dînent rapidement, endossent leur élégante toilette de travail, descendent dans certains établissements où elles ont leurs habitudes. Il y a une répartition quand même. Eh bien, ces soupeuses, elles vont généralement commander qu'un petit encas léger parce qu'elles ne sont pas vraiment là pour manger.
C'est l'hyper-spécialisation là, de la profession.
Voilà. Et elles vont plutôt attendre le client qui, lui, est venu souper et se divertir. Donc, on va retrouver cette petite description d'une soupeuse qui est issue des archives de la police que tu vas nous lire.
C'est une femme sans amant qui va chaque soir au restaurant Peters. C'est une des habituées. Elle y va avec une bande dans cet établissement où il y a beaucoup d'habitués. Le garçon, le patron, prête la main à tout. On se connaît, on se tutoie, les mots plus ou moins risqués sont envoyés d'un bout de la salle à l'autre bout. Les demandes de connaissances sont souvent transmises par les garçons. Enfin, il y a un sans-gêne impossible à admettre.
Alors moi j'imagine le, je sais pas pourquoi dans ma tête je me suis fait toute une histoire. C'est, tu sais, genre c'est un jeune policier, c'est sa première fois à Paris, il est complètement en panique quand il voit ça. Enfin, tu vois, je sais pas pourquoi je me suis créé cette histoire là.
C'est-à-dire du jeune flic qui doit aller sur le terrain les démasquer.
En tout cas, voilà, ces soupeuses, elles peuvent se rendre dans des cabinets particuliers pour une demi-heure. Enfin, ça passe. Elles font ce qu'on appelle des couchées, c'est-à-dire elles sont chargées de faire la noce et de divertir leur hôte, puis de les ramener chez elles à la fin du souper. Il y a plusieurs stratégies, elles ont mis en place des combines, hein, souvent en collaboration ou en complicité avec le restaurateur. Donc la première combine, c'est la ficelle du cabinet. Donc c'est-à-dire tu rentres par erreur dans un petit cabinet alors qu'un client est seul, et ben là tu restes en fait, ouais, pour lui tenir compagnie. Hein. Donc évidemment il faut que le garçon, le serveur t'ait renseigné avant. Et l'autre combine, c'est la ficelle de la ménagère. C'est-à-dire tu te fais offrir par un client un bibelot qui est présent dans le cabinet. Donc évidemment il paye en plus de l'addition. Et le lendemain tu ramènes le bibelot au restaurateur et vous faites 50-50.
Ouais. Et éternellement, la semaine prochaine, tu rachètes le même bibelot à un autre crétin.
Voilà. Enfin, tu fais acheter. Voilà. Alors, pour les restaurateurs, il y a plein d'avantages, hein, à avoir des soupeuses au sein de leur lieu, hein, parce que ça assure une certaine réputation. Tu attires des personnalités célèbres, hein, comme tu nous le lisais dans ce petit guide des plaisirs. Et puis, les repas qui sont pris en cabinet sont payés double.
Bah oui.
C'est quand même plus intéressant. Pour les filles, hein, bah, ça leur permettait aussi de se nourrir, parce que des fois, t'avais des bons ou des primes, en fait, pour chaque client. Et donc, ça permettait aussi de subvenir à ses besoins. Et puis, tu pouvais récupérer les bouchons de bouteilles et pour avoir aussi d'autres primes. Voilà. Mmh. Et ces soupeuses, elles vont complètement disparaître après la Première Guerre mondiale.
Tendu, plié, tendu, plié, ronde chambre, retiré. Pas de ça, écarté, plié, ronde chambre, tendu, plié. Demi-bras, seconde, on croit, fondu, développe, demi-poids, à la barre.
Passe à table, les dévoreuses, une émission spéciale sur la cuisine.
C'était Parov Stalar, Candy Girl. Et oui, on le disait plus ou moins tout à l'heure, on associe souvent gourmandise et sexualité.
Oui, notamment quand on parle des femmes. Il y a une érotisation du rapport à l'alimentation et plus particulièrement au sucre. Alors, ce n'est pas quelque chose du 18e ou du 19e. Hein. Tu vas même le retrouver dans certains folklores ou contes où on parle de la jeune fille folle de miel hein, dès l'Antiquité. Mais c'est symbole vraiment de cette sexualité qu'il faut cadrer. Souvent, dans les descriptions, hein, les femmes croquent, sucotent, grappillent, picorent. En fait, manger est un spectacle sexualisant, mis en scène par et pour le regard masculin. On pense à Sade, Casanova, Miller, Nabokov, hein, où on a vraiment des descriptions de métaphores fruitières en lien avec la sexualité. Et cette retenue qu'on impose aux femmes par rapport au sucre, c'est exactement la même que celle par rapport au désir, en fait. Le mâle est mangeur, la femme est mangée. L'appétit féminin, si elle est trop gourmande, ça veut dire qu'elle aime trop le sexe. Donc c'est une transgression. Et là, je pense au cas de Marie-Antoinette qui est très flagrant par rapport à ça. On va lui reprocher sa gourmandise, son alcoolisme et sa lubricité dans son procès. On a plein d'expressions qui nous montrent cette association gourmandise et sexualité. Par exemple, avoir le nez tourné en friandise, ça veut dire être amoureuse. Une femme à croquer, c'est une femme dont on peut obtenir des faveurs sexuelles, alors qu'une femme de croque, c'est une prostituée. La marmite, ça désigne la prostituée en argot du 19e siècle. Le lécheur, ça signifie gourmand au 13e, mais au 19e, ça devient une personne qui aime embrasser. Donc là, tu vois aussi comment sémantiquement, on est très très proche. Mais cette surveillance du comportement alimentaire des femmes, on l'a dès la petite enfance avec la figure de la petite gloutonne, en fait. Un garçon qui aime le sucre, il va être perçu comme un bon mangeur, une fille comme une gourmande. En fait, elles sont incitées par la société et leur famille à gouverner leurs pulsions. Il y a des études qui montrent qu'on laisse beaucoup plus de temps aux garçons lors des tétés. Voilà. Et pareil, dans les contes, les femmes, les ogresses, finalement, les femmes ogres, elles sont jamais représentées comme de véritables ogresses. Elles sont des femmes comme les autres, réduites à un rôle subalterne au service du père.
Je veux dire, en fait, elles ne mangent pas de...
Non.
Elles mangent pas d'enfants.
Non, alors qu'elles pourraient être une ogresse libre, quoi.
Elles font des crêpes pour leur mari.
Voilà.
Normal.
Normal.
Ceci dit, le sucre, c'est mauvais pour tout le monde, Camille.
Je sais, mais... Voilà.
T'es infâme et père à tout damer. J'ai tellement faim que je pourrais bouffer le monde entier. La déraison est ma seule raison, pas besoin de clamer. Tu cherches à gravir les échelons, mais c'est moi le sommet. J'ai pas d'ange assis sur mes épaules avec qui m'est d'accord. Ma faim est sans mémoire comme un membre de mon corps. Ma faim, moi, elle manque, elle me dépend comme un cador. Faut que je raille, faut que je te graille pour nous mettre d'accord. Mais puisque t'es pas un prédateur qui va couper le cœur, je fondrais sur toi, t'auras pas le temps d'avoir peur. Je sale, je sens ton bout t'échapper. Le processus est lancé, tout le monde peut m'arrêter.
Star qui rugit, c'est bien.
Oui, qui rugit.
Voilà, c'est très masculin tout ça.
C'est très masculin. D'ailleurs, on va parler de steakisme. Et ça, c'est très masculin. En fait, c'est cette idée reçue que les hommes auraient besoin de plus de viande rouge que les femmes. Parce que la viande blanche, c'est pour les régimes. Ce stéréotype, il est très présent dans les pubs. Pourtant, il n'y a aucun fondement scientifique. Même au contraire, ça devrait être les personnes menstruées qui auraient besoin de plus de fer que les autres.
On en trouve plus dans les haricots.
Oui, et dans les légumineuses que dans la viande rouge. Un premier, hop, ça y est, hop, premier truc qu'on a démonté. On sait, les hommes dans le monde mangent deux fois plus de protéines que nécessaire, et cet écart, il est visible dès l'adolescence. Parce que, et là on revient à notre intro à la pensée magique, la viande est perçue comme un aliment viril qui valide la masculinité hégémonique. C'est un peu le stéréotype du chasseur préhistorique sur lequel on pourrait revenir, parce que finalement, on bouffait beaucoup plus de racines que de viande.
Et des fruits, chasseurs-cueilleurs.
Beaucoup plus cueilleurs. Mais on a une appropriation de la viande par certains hommes. Même, t'as des civilisations, t'as même des morceaux qui sont interdits aux femmes. Et voire, on a une certaine négligence alimentaire pour les femmes. Parce que la viande, l'accès à la viande est vu comme un privilège. Donc, est réservé aux personnes les plus privilégiées d'une société donnée. Et ça va durer très longtemps, hein, puisque même jusque dans les années 70, que ce soit Christine Delphi ou Françoise Héritier, elles vont constater des femmes qui servent à table, mais qui vont manger après les hommes dans la cuisine, souvent les restes, en fait, et elles mangent debout. Mon arrière-grand-mère, c'était exactement ça. Elle servait, mais elle mangeait pas, et elle restait dans sa cuisine pour manger à la fin.
J'ai l'impression que des fois, on donne aussi les morceaux de choix aux personnes qui vont être vues comme les plus faibles, les anciens, les grands-parents, les petits-enfants, tu vois, dans les moments un peu difficiles.
Oui, aussi, on peut leur réserver.
Voilà.
Alors que certaines pièces, comme la carcasse de la volaille, c'est appelé le morceau des femmes dans certaines régions françaises, parce que c'est ce qui reste, en fait. Quand t'as mangé tout, bah, il te reste plus que ça. Cette consommation de viande excessive, c'est comme si c'était pour réaffirmer une forme d'autorité sur la nature, les femmes, les enfants, sur les autres civilisations, qui sont peut-être plus céréalières dans leur alimentation. Et puis parfois, là où on parlait de la publicité aussi, tout ce qui est pub, ça va jouer aussi sur ce côté réac. En fait, la viande, c'est un outil de résistance contre la bien-pensance, contre tous les bouleversements aussi de nos sociétés. Et ça va jouer sur cette crise de la masculinité.
On est quand même dans un monde où on mange moins de viande et où ces notions-là, ça se vérifie peut-être moins.
Oui, c'est en train d'être bousculé, hein, puisqu'on a aussi des premières campagnes qui visent à réduire la consommation de viande. D'ailleurs, elle devrait d'abord viser les hommes, hein, je dis juste ça comme ça. Mais on le sait, ça, la consommation de viande a des effets néfastes sur la santé, l'environnement. Mais les légumes, ils restent quand même connectés un petit peu négativement. Hein. Souvent, on était encore dans « t'es végétarienne, donc t'es chiante, en fait, ta vie est ennuyeuse ». Et puis, il y a un côté dévirilisant. Hein. Par exemple, pendant très longtemps, comme le tofu, il contient des phyto-œstrogènes, certains hommes avaient peur d'en manger, de peur de devenir féminisés, en fait. Après, tu vas aussi trouver les Egan, hein, c'est les végétariens survirils, qui surperforment une masculinité hégémonique. Et eux, ils vont justifier leur choix pour des raisons politiques et éthiques.
Ça donne quoi, en fait ?
Mais ça donne que, en fait, plutôt que de dire je mange moins de viande parce que j'ai plus les moyens ou parce qu'il faut, voilà, là, ils mettent vraiment en avant le côté politique. C'est pour le bien-être des animaux, etc. Même si derrière, il peut y avoir aussi des soucis esthétiques ou économiques, ou voilà. En fait, ils prennent les plus belles excuses. On parlait de l'alimentation là, des hommes, et c'est vrai qu'il faut qu'on travaille aussi les imaginaires, parce que dans les représentations culturelles, notamment artistiques, on a souvent beaucoup d'hommes qui mangent, qui dévorent, qui gloutonnent, qui musclent leur fraternité autour de grandes bouffes, de banquets et autres barbecues.
D'ailleurs, quand tu dis barbecue, c'est juste dire un truc, c'est qu'on a l'impression que quand les hommes font la cuisine, c'est aussi un peu impensif de dire ça, mais les femmes font vraiment la cuisine du quotidien, ce qu'on a vu dans cette émission, et quand c'est le moment du barbecue, de faire cuire la viande, il va avoir l'impression qu'il a fait la cuisine, mais la mise en place, c'est pas lui qui l'a faite, la vaisselle, c'est pas lui qui l'a faite.
La marinade, c'est pas lui qui l'a faite. Et puis là aussi, c'est parce qu'on...
On sent le vécu.
Non, mais pas du tout. Mais non, il n'y a pas de viande.
Voilà, mais le témoignage, tu vois.
Il n'y a pas de viande, je vais... D'où tu veux que je fasse un barbecue avec trois courgettes, moi?
Mais justement, t'as le temps d'observer comment ça se passe.
Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais voilà, tu vois, tous ces trucs-là où on, aux hommes, l'extérieur, le feu, la viande, le barbecue, c'est le prestige de sa qualité du foyer, de son monde personnel, c'est une image masculiniste, viriliste, ça on le voit bien aussi dans les pubs. Alors que des films sur des femmes qui feraient des gros banquets, des grosses bouffes, il n'y en a pas en fait, ou très peu. On va avoir quelques portraits de cuisinières comme le festin de Babette.
Oui, avec Stéphane Audran au National.
Mais on n'a pas vraiment de film qui montrerait cette sororité autour d'un gros repas ou qui rendrait hommage à ces femmes cuisinières, ces grandes chefs qui ont marqué aussi la cuisine française. Donc il y a vraiment une importance à retracer l'histoire des cuisinières. Parce que en fait, la cuisine, c'est aussi un moyen de transmettre des histoires familiales et ou une culture. Tu vois, on parlait des livres de recettes. C'est un peu des traces écrites de l'expérience des femmes.
Ouais. D'ailleurs, certains sont vraiment hyper précis en termes d'histoire, tu vois, sur les régions, etc. Et je pense que c'est pareil, c'est pas trop valorisé.
Non. Ouais. Oui. Et même des fois, on va pas valoriser que souvent les femmes, elles vont créer leur propre livre de cuisine, donc avoir une démarche de littératie, c'est-à-dire de faire leur littérature. On voit nos grand-mères ou nos arrière-grand-mères qui recopiaient leurs recettes de cuisine sur des petites fiches Bristol ou et voilà, et qui se constituaient en fait le livre de cuisine de la famille.
Et c'est ça, et je pense que cette volonté-là, c'est souvent, bah, par exemple, la petite fille qui va dire les histoires de ma grand-mère, c'est aussi de les rendre visibles en fait, leur rendre hommage.
Oui, et puis aussi, c'est une contribution, ces livres-là, c'est aussi maintenir une communauté, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un rôle social dans cette cuisine de femmes. Et on n'a pas assez rendu hommage aussi, hein, ou fait mage, finalement, à ces femmes que l'histoire a invisibilisées. Même encore aujourd'hui, hein, on a une langue de la cuisine qui est marquée par les questions de genre. Moi, je trouve ça insupportable de parler de touches féminines ou d'assiettes féminines pour qualifier des mets plus légers, végé ou bio, en fait.
Voilà. Alors que tout le monde. La touche féminine de Maïté qui fait flamber ses trucs dans l'Armagnac, là, c'est une bonne touche féminine, tu vois. Enfin, le sanglier à l'Armagnac, c'est féminin.
Les vêtements, d'ailleurs, on reviendra sur Maïté. Mais j'ai trouvé une chef qui s'appelle Laetitia Viss, qui, elle a failli abandonner le métier plusieurs fois à cause du sexisme ambiant. Elle a un resto à Marseille qui s'appelle La Femme du Boucher. Et puis surtout, elle a écrit un bouquin de cuisine sur un produit particulier. Et ce bouquin, il s'appelle « Les couilles, 10 façons de les cuisiner ». Et donc, elle vous propose, par exemple, comme recette express, les précieuses au beurre, potimarron et chorizo.
Poêle les 4 paires d'amourettes sans la peau, ces abats de bœuf ou de cochon ou de mouton, avec de l'huile de noisette et de sel. Ajoutez noix de beurre, de la coriandre hachée et une gousse d'ail écrasée, servie avec des morceaux d'un beau potimarron, etc., etc.
Tiens, tu parlais de Maïté tout à l'heure. Je pense que ça aurait été une recette qui lui aurait plu. Hein.
Ah oui, je pense. Ouais. Ça manque d'armagnac.
Oui, ça manque peut-être un peu d'alcool, mais voilà. Mais même au niveau de la médiatisation. Alors certes, l'hégémonie masculine commence à s'effriter. Mais encore aujourd'hui, beaucoup de critiques ou de chroniqueurs culinaires sont principalement des hommes. En fait, ceux qui sont connus et médiatisés. On le voit dans les émissions de télé, etc. Et même le chef cuisinier, il va jouer...
Ouais, du côté bonhomme. Un peu,
ouais, tu vois, c'est bonhomme, les easy riders de la cuisine.
Ouais,
tu vois,
ils se rasent les cheveux, souvent.
Tu vois, tatoués, ils partent à bouffer des yeux de je sais pas quoi. Tu vois, par exemple, Maïté, c'est la première femme à avoir son émission de cuisine. Il faut attendre 1980.
Ouais.
Et elle va l'avoir jusqu'en 99. Et après, il faudra de nouveau attendre 2007 pour qu'une femme ait de nouveau une émission de cuisine.
En plus, c'est un peu un ovni parce que milieu populaire, son gros accent du sud-ouest, elle fait vraiment tâche, j'ai envie de dire, sur les programmes de TF1. Quand je dis tâche, elle tranche, je veux dire. C'est pas...
Et puis même si on reste maintenant, même si on retourne dans la gastronomie, on a aussi le plafond de verre. C'est-à-dire que certes, les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les cuisines, mais elles sont moins primées. Et puis, voir aussi, il y a une orientation genrée des postes en cuisine. C'est-à-dire que tu ne vas pas être obligatoirement chef, tu vas être seconde, par exemple. Il y a aussi cette question de la place des personnes racisées.
Oui. Alors, des personnes carrément mises en esclavage, je pense qu'il faut se poser des questions quand on se fait livrer ses repas, à quoi on participe, en fait. Enfin...
Oui, c'est-à-dire que c'est souvent, en fait, les femmes et les personnes racisées qui, dans ces métiers de bouche, vont être au plus bas de l'échelle. Ouais. Ils vont être le plus exploités. elles subissent encore des stéréotypes, mais certains des trucs, tu dis non, mais c'est pas possible, tu vois. On te parle encore de leur menstruation par rapport à la cuisine, par rapport à leur goût, quoi. T'es là, mais faut peut-être dépasser tout ça. Ouais. Même celles qui commentent la cuisine, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoirement chefs, hein, mais qui sont critiques culinaires, en fait, il va y avoir une sorte de mansplaining, c'est-à-dire qu'on va souvent les sexualiser, ou on va les appeler les foodistas, ou alors on va les qualifier de journalistes culinaires, mais pas de critiques culinaires. Voilà, il y a toujours une forme de hiérarchisation. Parce qu'encore aujourd'hui, une femme qui utilise sa bouche pour son métier, c'est mal vu, et on finit toujours par la traiter de mauvaise langue. Alors, pour conclure, il y a vraiment une idée de réappropriation hein, de la cuisine par les femmes. Réappropriation et redéfinition des rapports de domination. Et ça, ça sera évidemment pas sans lutte et sans obstacle, mais pas non plus sans résultat derrière. Parce qu'on le voit, ça a évolué et il faut que ça continue d'évoluer. Et il faut continuer de provoquer des fissures de l'ordre du genre et de l'ordre alimentaire. A été préparée avec Mangeuse de Lorraine Malka, Féminisme et Steakisme de Nora Boisani, Dans la cuisine de l'ogre de Martine Courtois, Manger une histoire des mères lyonnaises de Catherine Simon, Mangeur de viande de la préhistoire à nos jours de Marilène Patou-Matisse et une histoire des cuisines en France d'Alain Drouard.
Merci beaucoup Camille, on va aller se faire poêler une petite bouffe maintenant.
Eh bien nous allons tester cette recette de précieuse au beurre.
Voilà, une version sans viande, du coup, version courgette.
Un steak de soja.
Oh non, je veux pas trop me féminiser. Je te souhaite une bonne fin de soirée, bonne fin de soirée à toutes et à tous, bon appétit.
Bon appétit, bien sûr.
Bon appétit. Et avec ceci,
ce sera tout.
Merci.